enfance dans la guerre, puis une jeunesse sous les drapeaux en Algérie, des livres sulfureux, sauvages, charnels, interdits parfois. Arthur Rimbaud pour maître, Michel Foucault, Philippe Soler sous les ris pour admirateur. En une vingtaine de livres, Pierre Guyotat aura fait basculer la littérature française avec une écriture incandescente et pulsionnelle.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour Pierre Guyotat.
Bonjour.
Nous nous retrouvons chez vous, à l'est de Paris, on est au sixième étage, on voit le ciel, on voit les toits en zinc de la capitale. Est-ce que c'est ici que vous travaillez ou vous pouvez écrire finalement partout, dans les cafés, chez des amis? Est-ce que vous avez un rituel d'écriture?
Oh, maintenant j'écris vraiment tout à fait chez moi, vraiment ici. Mais avant, il n'y a pas si longtemps encore, j'aimais beaucoup travailler dehors par exemple. À l'époque où je vivais dans un camping-car. Donc j'installais le camping-car chez des amis, sur une garrigue ou une plage, n'importe quoi. Et donc je travaillais beaucoup dehors. J'ai énormément aimé travailler dehors.
Et dans votre camping-car, il y avait une bibliothèque comme celle que vous avez ici? Parce que j'imaginais une bibliothèque importante.
Il y a vraiment très peu de livres, oui.
Ici, il y en a beaucoup. Il y en a même jusque sur le canapé. On peut à peine s'asseoir.
C'est vrai, c'est vrai.
Vous les lisez tous?
Oh, j'ai pratiquement tout lu, oui. Mais ça, c'est assez récent. Non pas que j'ai attendu 70 ans pour lire. Mais depuis 10 ans, c'est vrai, j'aime beaucoup, non pas accumuler, mais bon, lire vraiment des livres et les garder.
Vous lisez quoi en ce moment?
Je lis d'abord des grandes choses d'autrefois, vous voyez, les Calderon, tout ça, Shakespeare, etc., Rabelais, etc. Et puis, je lis surtout des essais, en fait, historiques. Historiques ou scientifiques, pardon. La science m'intéresse beaucoup.
Alors, au cœur de cette rencontre, Pierre Guyotat, il y a un livre qui est le vôtre, Idiotie, qui, sans être une biographie, revient sur votre jeunesse, l'arrivée à Paris à la fin des années 50, quand vous logez sous les ponts de Paris, en face de la Tour Eiffel, ou bien la guerre d'Algérie, on en reparlera. Mais il faut dire que ce livre, qui n'est donc pas une biographie et pas davantage un roman, a obtenu le prix Médicis, mais aussi le prix de la langue française, décerné par l'Académie du même nom, et enfin que le jury du Fémina a souhaité vous attribuer un prix spécial pour l'ensemble de votre œuvre. Je me suis dit, tant de récompenses, ça lui est jamais arrivé.
Non, c'est agréable. Voilà.
Mais alors, est-ce que vous y voyez une ironie ou une revanche, vous qui avez été censuré dans les années 70 avec Eden?
Je suis absolument étranger à tout sentiment de revanche, de vengeance ou de haine.
Donc l'auteur censuré des années 70 devient aujourd'hui loué dans les années 2010-2020.
Enfin, j'ai été aussi loué par des gens qui étaient des gens de valeur, hein, de grande valeur. Foucault, tout ça, c'est des gens de valeur à l'époque, et d'autres qui ne sont pas forcément cités, bien d'autres.
Mais j'ai quand même le sentiment que votre littérature, aujourd'hui, alors est-ce que c'est la politique qui a changé? Est-ce que c'est la langue qui ne fait plus scandale? En tout cas, que votre littérature, votre façon de raconter le monde, est plus acceptée et davantage comprise?
En fait, il ne faut pas oublier que dans les années, fin des années 60, donc l'époque de l'apparition de Français mes soldats, et après toute l'époque d'Eden, etc., tout ce qui a suivi, etc., j'étais extrêmement renommé à cette époque-là. Et je suis resté pratiquement presque tout le temps. Donc maintenant, si vous voulez, ça s'est peut-être élargi. Bah, les critiques changent, les journalistes changent aussi. Je pense qu'il y a un phénomène d'accumulation de livres, de légendes, de mythes, etc., qui fait que ça débouche sur quelque chose d'assez impressionnant. Faut que tu n'aimes pas non plus la langue française, c'est très bien. Enfin bon.
Vous ne visez pas l'Académie française?
Ah non, pas du tout, je ne vise rien du tout. J'ai toujours pensé que j'avais ce que je méritais, finalement.
Même la censure dans les années 70?
Oui, parce que dans la censure, vous savez, après tout, beaucoup de gens qui m'ont défendu à l'époque, ce n'est pas forcément des gens qui auraient accepté les pareils livres, si vous voulez. Et moi-même, je suis conscient de ce que je peux déranger.
C'est la langue qui dérange ou c'est les thèmes que vous abordez?
Pour moi, il n'y a aucune différence entre le... Si ce n'est pas étanche. Si c'est bien écrit, comme on le dit, c'est que c'est plein d'idées, c'est tout.
En 45 ans, ou 50 ans presque, entre Eden et Idiotie, il y a quand même un thème récurrent, un thème central, qui est la guerre d'Algérie, puisque vous en parliez à l'époque, vous en parlez aussi dans ce nouveau texte.
La guerre. Oui, la guerre en général. Oui.
Mais la guerre d'Algérie que vous avez faite, parce que vous l'avez faite, est-ce que c'est un événement fondateur pour vous?
Fondateur, oui, dans la mesure où cet événement-là, après coup, m'a permis d'oser, disons. Mais tout ce qui fait le substrat de ce livre était déjà présent avant. Il est même présent même dans l'enfance.
Mais de quelle nature est-ce que vous racontez dans Idiotie ? Est-ce que ce sont des réminiscences ? Est-ce que ce sont des images recomposées ? Des souvenirs enfouis ?
Vous savez, d'abord, j'ai beaucoup de mémoire, et dont je me souviens très précisément de certaines choses. J'ai aussi parlé avec d'autres, c'est important aussi, on peut parler avec d'autres témoins et on retrouve des choses ensemble. Donc cette question-là, je pense que la réminiscence est un mot, c'est le premier mot que vous avez utilisé, il est bon, je crois.
C'est-à-dire vous convoquez un certain nombre de sensations et de souvenirs.
Parce que dès que je me mets à écrire, les choses reviennent. Si je vous les racontais comme ça de vive voix, peut-être que ça ne viendrait pas aussi bien. Mais l'écriture fait que ça pousse les choses dans les retranchements.
Donc ça veut dire que vous êtes dans un état un peu particulier quand vous écrivez.
Ah oui, oui, c'est une chose que je revendique. Je sais que c'était très mal vu du temps de Roland Barthes, par exemple. On sait que l'inspiration n'existait pas. Moi, j'ai toujours pensé qu'elle existait, du reste.
Donc vous sentez parfois qu'elle arrive.
Oui, qu'elle arrive, c'est vrai. Mais l'inspiration, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, vous savez. C'est tout simplement, on est parfait. On est vraiment dans la ligne. On a le cœur, l'esprit, les membres, le sexe, évidemment, tout ça, etc. Tout ça est absolument dans la même ligne. Et on y va. C'est une concentration de tous les sentiments, de toutes les forces qu'on a en soi.
Sans pousser le parallèle au-delà du raisonnable, entre Éden et Idiotie, vous n'êtes pas quand même tout à fait dans le même registre de langue. Dans Idiotie, il y a le jeu. Abattre, mon jeu, vivre sans retenue, les seuls sens animaux exister sans être, écrivez-vous.
Oui.
Ce sont deux langues différentes ?
Non, c'est toujours la même, parce qu'il y a même bien pire, si je peux dire, Éden, il y a aussi progéniture. Et même les œuvres plus récentes, comme les deux joyeux animaux, par exemple. C'est toujours la même langue, c'est la même structure, vous savez. On ne peut pas changer, vous savez, un musicien, mais si on le reconnaît tout de suite.
Vous avez dit moins pire.
Non, pire dans le bousculement de la langue. Vous savez, ce n'est pas volontaire chez moi, la révolution linguistique ou autre. Pas du tout. C'est quelque chose qui est absolument dans ma nature, qui est naturel. Mais si vous voulez, je sais très bien, quand je fais des ellipses dans progéniture, je sais très bien ce que je fais. Je sais très bien qu'il faudrait que je développe avec des conjonctions, des problèmes, etc. Je sais très bien ça. Mais j'essaie de simplifier les choses. Et j'essaie d'être au plus près de la réalité. C'est pour ça que cette langue est charnelle. Enfin, on l'a dit charnelle. Elle est charnelle, oui. Mais parce que je suis au plus près de la réalité. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense est matériel, si vous voulez.
J'ai envie de dire qu'elle est aussi, parfois, mais je ne pourrais pas l'expliquer énormément, mais qu'elle est aussi assez politique. Qu'elle bouscule justement, qu'elle bouscule même le lecteur dans sa pensée, dans sa réflexion. Que pensez-vous, Pierre Guyotat, vous qui avez été un fervent militant de la décolonisation et qui êtes un grand auteur français de la francophonie ?
C'est assez complexe, parce que vous savez, c'est amusant, mais moi quand j'avais entre 16 et 26 ans, au fond tous ceux avec lesquels j'ai eu des rapports de génération, tels quels, etc., étaient eux dans le nouveau roman. Mais moi, j'étais pas du tout dans le nouveau roman. Ça m'a jamais tellement intéressé. J'étais par contre très intéressé par la littérature algérienne, antillaise. Voilà. J'ai eu quand même un grand ami qui s'appelait Kadé Biassine. J'étais très proche de cette littérature-là. Maintenant, je serais peut-être un peu moins. Il me semble que cette littérature-là est moins puissante que la leur. Mais peut-être que je ne connais pas assez, et sans doute je ne connais pas assez.
Mais donc la francophonie est quelque chose d'assez naturel pour vous ?
Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, les choses se font malgré tout à Paris. Les gens qui ont une ampleur internationale, si vous voulez. Voilà, il faudra beaucoup de temps pour déplacer, disons, le centre de la francophonie, qui est encore Paris.
Mais est-ce qu'il faut décoloniser les arts du nom d'un mouvement ?
Ça se fera tout seul. C'est pas à nous à le faire, c'est aux générations suivantes de le faire. Si la langue française existe toujours. Mais je pense que la langue française a un bel avenir devant elle. C'est une des premières langues du monde, tout de même. Oui.
Pierre Guyotat, nous sommes ici chez vous et vous avez souhaité que nous écoutions la cantate profane de Bartok par Boulez avec le Chicago Orchestra. Vous nous direz dans quelques minutes pourquoi.
Hey!
La cantate profane de Bartok, j'ai envie de vous demander, Pierre Guyotat, pourquoi ce choix? Et puis en même temps, dans le titre même de l'œuvre, j'ai l'impression qu'il y a une partie de votre œuvre où la religion et le profane, voire la profanation, sont présents et luttent.
Oui, c'est vrai, c'est très juste. C'est une œuvre que je trouve magnifique depuis toujours. C'est une œuvre à la fois sauvage, raffinée, comme toute l'œuvre de Bartok. Hein. Bartok est quelqu'un qui résume assez bien tous les conflits du XXe siècle, en tout cas. Parce que je suis du XXe siècle, quand même, malgré tout, pour une bonne part. Donc, à la fois, ce refus de l'Empire austro-hongrois, cette revendication nationale, pas nationaliste, nationale, l'intérêt pour les musiques populaires, formidable, pas seulement d'Europe centrale, mais du Maghreb aussi, de la Turquie, parce qu'ils sont allés avec Kodaly, donc dans le Maghreb, à l'époque, pour recueillir, pour enregistrer. On a ces enregistrements, maintenant. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et puis, cet homme qui meurt dans une certaine misère, à New York, comme ça, en 48, je crois, 40, seul, extrêmement pauvre, tout à fait démuni. Je trouve ça admirable.
Pierre Guyotat, est-ce qu'il faut avoir l'oreille musicale pour écrire?
Ah oui.
Alors vous dites ça comme une évidence, je ne sais pas, moi.
Moi, je pense que c'est ce qui manque à beaucoup. Mais regardez, tous les écrivains qui restent sont des écrivains musicaux. Des écrivains dont on peut lire la prose ou la poésie sans aucun... Oui, absolument. Les autres ne tiennent pas.
Vous avez parlé de la sauvagerie et du raffinement de Bartok. Si on pousse le parallèle, est-ce que votre écriture est une partition d'orchestre?
Peut-être pas ces livres-là, mais des livres comme Progéniture, Prostitution, de certaine façon, oui, peut-être, oui.
Parce qu'il y a une écriture chez vous, une écriture pleine, presque du trop-plein, enfin, oui. Une abondance extraordinaire, où il y a un présent débordant dans chacun de vos livres.
Oui, un présent, car je tiens beaucoup au présent. Le présent, c'est ce qu'on a fait de mieux jusqu'à maintenant, si vous voulez, d'une certaine façon. Le passé composé, je savais bien ce que ça veut dire. Passé simple, comme s'il y avait un passé compliqué, tout ça est très vieux jeu. Le présent.
Et pourtant, vous parlez d'une époque qui est déjà passée.
Oui, mais ça ne fait rien, parce que j'y suis. J'y suis comme un cinéaste qui fait suivre avec une caméra, qui entre dans des pièces, qui sort, qui rentre, etc.
C'est étonnant, parce que dans votre phrase, il y a ces allers-retours perpétuel, oui, oui. Entre le présent, le souvenir, oui. Ça peut être une même phrase.
Le dedans, le dehors, etc. Oui, parce que c'est la réalité. Je sais que ce présent pose problème aux gens. Autrefois, ça le posait moins, je crois. Aujourd'hui, où on est très... Il n'y a pas de second degré. Il n'existe plus de second degré aujourd'hui. Enfin, de moins en moins, en tout cas. Disons, le présent fait peur parce que le présent domine, si vous voulez. Il n'y a pas cet écart que font certains auteurs. Moi, je ne mets pas de distance, voilà. C'est mon grand défaut.
Ou votre grande qualité.
Je ne sais pas. En tout cas, je sais que c'est là.
Pierre Guyotat, vous aimez lire, je sais. Vous avez fait dans les années 80, notamment à la fac de Vincennes à Paris 8, des lectures où vous faisiez entendre Nerval ou Ronsard. Oui. Rarement des œuvres de vous, mais plutôt des grands classiques. Est-ce que vous accepteriez, même si vous n'aimez pas beaucoup ça à la radio, lire un extrait de Idiotie?
Oui, volontiers.
Alors on y va.
Je suis, sa grosse main molle s'essayant à me faire plier la nuque, poussé sur un brancard haut, immobilisé sur la toile tendue, des sangles sont bouclés autour de mes chevilles, de mes genoux, de mon ventre, de mes avant-bras, de mon cou. Le gradé dont j'ai le temps de voir les galons aux épaules, adjudant-chef, or traversé d'un liseré rouge, se défait son ceinturon de la taille, le brandit, ramassé en fouet, elle me frappe sur tout le corps, le cuir, ou la boucle m'emporte la lèvre supérieure. Ai-je encore mes lunettes, ou, de crainte que l'armée ne soit contrainte d'en payer le prix, me sont-elles enlevées sous les coups? Est-ce d'un coup aux yeux, ou de ma vision accrue, je ne vois plus que du noir, la bande de cuir seule, sous une faible lueur circulaire au plafond, autour de moi que les coups ne font pas crier? Le gradé se retire, ses adjoints de leur ceinturon me refrappe, ma paupière saigne, le sang coule de ma lèvre fendue, je veux le boire, mais, tirant ma langue, je m'étrangle dans la sangle, on me la desserre.
Extrait d'Idiotie, le nouveau livre de Pierre Guyotat. Est-ce que vous écrivez, Pierre Guyotat, à haute voix, quand vous écrivez?
À haute voix, non. Non. C'est plutôt un chuchotement ou un marmonnement. Effectivement, pour voir si ça tient rythmiquement. Je suis un obsédé du rythme. Oui.
Et l'écriture passe par le corps pour vous? Vous parliez de l'inspiration tout à l'heure.
Ah, le corps, tout passe par le corps, de toute façon. Même la pensée la plus subtile, la plus complexe, passe par le corps, si vous voulez.
J'ai, moi, l'avenir devant moi que je dois remplir de faits, gestes, œuvres neuves, un corps pour accomplir, je vous cite.
Oui, parce qu'il faut de la force pour faire tout ça. Mais tout ça est extrêmement mélangé, si vous voulez. La pensée, c'est de la matière aussi. Donc, manger correctement pour bien penser, c'est pareil au fond.
Mais vous êtes quand même, alors je prétends pas connaître toute la littérature française, mais vous êtes quand même de ces auteurs, et j'en ai jamais lu d'autres, pour qui la chair, les fluides, les souillures, le sexe envahit les pages. On vous a même traité de pornographe à une époque.
Oui, c'est vrai. Pourquoi pas ? J'en sais rien.
Mais c'est vrai ?
Je pense pas. En tout cas, je préfère le mot pornographe à érotique. L'éros, bien sûr, c'est intéressant. Mais érotique, c'est ridicule.
Pourquoi ?
Faire un adjectif avec ce dieu... étonnant quand même. C'est absurde. Je suis horreur de la littérature érotique.
Ces petits bourgeois ?
Ces petits bourgeois, je refuse absolument. On presque toutes les semaines comme une autorisation pour publier un extrait de ce que je fais dans une anthologie de poésie érotique. Et je refuse à chaque fois. Mais ça fait très longtemps que je le dis, mais vous savez, plus on dit les choses et moins elles sont entendues.
Est-ce que la guerre d'Algérie, je reviens à cette question, parce qu'elle est centrale dans votre livre, est-ce que ça n'a pas été aussi pour vous une expérience du corps ?
Oui, j'ai la prison, c'est une expérience corporelle. Hein.
Vous avez passé combien de temps en prison ?
Eh ben, j'ai passé un temps sur moi illégal, mais bon. Oui, j'ai fait 3 mois, je crois, 3 mois au secret. En principe, je ne devais pas avoir de contact. Je sortais une demi-heure le matin pour aller à l'abreuvoir, parce que la compagnie était dans une ancienne ferme, pour me débarbouiller, etc. Sous la protection de soldats, avec l'arme chargée quand même, et avec l'ordre de tirer si je faisais un mouvement... Et donc certains ont refusé de me garder sous ce prétexte-là.
Mais vous vous êtes rebellé.
Ah oui, je me suis rebellé beaucoup. Beaucoup, dès le début, depuis Grenoble où j'étais au début, jusque là-bas, jusqu'en Algérie.
Et en même temps, c'est vous qui aviez voulu faire la guerre,
oui,
et la faire comme soldat de base.
J'aurais pu effectivement avoir d'abord un sursis. Je ne l'ai pas voulu. Et je pouvais aussi faire une école d'officier. Donc les EOR, école d'officier de réserve. Je n'ai pas voulu. Je pense parce que je m'en sentais incapable, sur le plan physique et sur le plan même intellectuel, c'est beaucoup dire, mais voilà, sur le plan des études, ça. Je ne sais pas, en tout cas, je ne l'ai pas fait, je n'avais pas du tout envie de faire ça, je n'ai pas tellement envie de commander, j'aime bien organiser les choses, mais je n'aime pas commander, et il faut commander quand même à l'armée, c'est quand même le... Non. Enfin, il faut obéir, mais il faut savoir commander d'abord.
Vous avez toujours été révolté.
Oui,
est-ce
mais...
que c'est pas finalement un des adjectifs qui vous colle à la peau, révolté ou rebelle ?
Écoutez, moi je me suis jamais considéré comme tel. Je vois des gens qu'on considère comme des rebelles, je comprends pas très bien. En quoi ? Non, moi j'ai connu des véritables rebelles en Algérie et ailleurs, des gens qui ont vraiment beaucoup risqué. Moi j'en sais rien, puisque de toute façon je m'en suis tiré à chaque fois. Donc je me dis que c'était peut-être pas si terrible que ça, mais sans doute me trompais-je. J'ai sans doute fait des choses plus fortes que je ne le pense. Mais ça, c'est le côté un petit peu fou, si vous voulez, du créateur. On ne se souvient pas vraiment.
La preuve, en tout cas, avec vos livres, parce que si vous racontez encore aujourd'hui la guerre d'Algérie, ce qui n'est pas la première fois dans votre œuvre, c'est pas tant pour raconter la guerre, et on l'a dit, c'est pas une autobiographie, vous n'êtes pas du tout lancé là-dedans, c'est plutôt une tentative de rendre compte d'une humanité à un moment précis.
Oui. Vous savez, j'ai très peu parlé de la guerre d'Algérie. Ce sont beaucoup les autres qui ont parlé de moi en Algérie. Moi, je n'ai pas du tout revendiqué, je n'ai jamais dit que Tombeau, mon 500 000 soldats, c'était la guerre d'Algérie. Il y avait effectivement des éléments qui pouvaient le faire penser. Bon, ce n'était pas ça du tout. C'était aussi la France, c'était aussi l'Europe de la guerre de 39-45, dont j'étais le contemporain bébé, enfant, si je puis dire. Mais sinon, je n'ai jamais revendiqué la guerre d'Algérie.
Vous le faites là avec Idiotie.
Oui, mais je ne revendique pas non plus, parce que je ne sais pas. Je pense que ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Je pense que ça va les intéresser maintenant, mais ça ne nous a pas intéressé du tout. Quand je suis revenu, personne ne m'a rien demandé du tout.
Mais alors pourquoi en faire un livre aujourd'hui ?
D'abord parce que c'est la suite, disons, des autres. Hein. Coma, formation et arrière-fond. Voilà. Et donc c'est l'Algérie, bien entendu. J'ai quand même resté 24 mois en Algérie. C'est quand même beaucoup, quand on est jeune. Voilà, donc c'était normal, c'était dans ma biographie à moi. Après cette fuite à Paris, c'était l'Algérie. À laquelle je n'ai pas coupé, comme des centaines de milliers de mes camarades.
Donc c'est votre biographie, mais ça n'est pas une autobiographie. Quelle différence vous faites, Pierre Guyotin ?
Non, vous savez, à chaque livre de cette nature-là, formation, etc., j'ai expliqué pourquoi je faisais ce livre. Ça me permettait de revisiter, comme on dit maintenant, des périodes, etc. Oui, d'une certaine façon, de me reconstituer aussi. Et surtout l'adolescence. L'adolescence, on est particulièrement vulnérable, on est assiégé de partout, par tout le monde. Tout le monde vous dépèce, finalement. Donc j'ai voulu, surtout dans l'arrière-fond, reconstituer cet être extrêmement malmené, mais enfin qui tenait la barre quand même. Et là, donc, j'ai continué avec ce texte-là.
Reverso, extrait des 7 solos de Pascal Dussapin que vous écoutez et aimez. Pierre Guyotat, merci encore de nous recevoir chez vous, d'être notre invité pour ce livre Idiotie. C'est un titre étrange quand même, Idiotie, qui mérite peut-être quelques lumières.
Au fond, je me suis toujours senti idiot. J'ai eu des événements assez graves dans ma vie, si vous voulez, mais j'ai tenu à chaque fois. Néanmoins, je les ai vécus en idiot, c'est-à-dire l'idiot, pour moi, est celui qui vit vraiment accru, qui vit en temps le présent. On retrouve ce présent. Le présent est le temps de l'idiot, finalement, le temps au sens grammatical de l'idiot. Et si vous voulez, il y a aussi que la vie est idiote, c'est pas moi qui le dis. Hein. Shakespeare, c'est un mortant. Hein. Il en savait quelque chose, lui.
Prostitution, vivre, formation, coma, arrière-fond, idiotie, ce sont oui. Quelques-uns des titres de vos livres, en un seul mot, comme ça. Vous aimez les mots seuls, isolés, qui font titre et qui, les uns à côté des autres, finalement, font une vie,
oui.
Qui est la vôtre.
Mais j'aime bien les titres, je suis très sensible aux titres. Quand j'étais journaliste, du reste, mon directeur, qui était Jean-Daniel, m'avait demandé de concourir au prix du meilleur titre. Parce qu'il trouvait que je faisais de très bons titres, je faisais des titres à l'époque pour tout le secteur politique aussi. Mais je méfie des titres maintenant, je vois ce que ça recouvre. La facilité avec laquelle les journalistes titrent, si vous voulez, et c'est très souvent injuste. Si vous voulez. C'est drôle, mais c'est injuste.
Sur la couverture du livre, il y a un autoportrait de vous, oui. Jeune homme, vous vous photographiez dans un miroir. Est-ce que vous vous reconnaissez quand vous voyez là avec des grosses lunettes en écaille?
C'est amusant, ben, j'ai 22 ans à cette époque-là, et c'est pas n'importe quel autoportrait. C'est un autoportrait que j'ai fait quand, descendant du bled, avec les jeeps à la section, j'ai été averti que la sécurité militaire m'attendait pour m'inculper, m'interroger et m'emprisonner. Donc j'ai foncé dans la chambrée et donc j'ai pris une photo de moi. Comme si j'allais disparaître, si vous voulez. Ça aussi, c'est une réaction d'idiot. Mais en fin de compte, c'est une très bonne réaction.
Donc vous vous souvenez très précisément de l'instant?
Ah, tout à fait.
Ça sert à ça, la photographie?
Ah, oui, parce que vous savez, c'était pas, ça ne représentait pas à l'époque. L'Algérie était en proie aux factions, l'armée était un peu incertaine encore. Je pouvais très bien y passer.
Est-ce que vous avez de la nostalgie de cette période-là, de la jeunesse, de votre enfance?
Nostalgie, c'est beaucoup dire, parce que moi, je suis vraiment un homme du présent et de l'avenir. J'aime bien la période dans laquelle je vis. Je ne ronchonne pas du tout contre les nouvelles technologies, même contre une certaine forme de sottise aussi, il faut bien le dire. C'est comme ça, ça passera, si vous voulez. Si j'ai des périodes dans ma vie qui présentent une certaine netteté, une certaine pureté, si vous voulez. C'est quand j'étais dans ce tout petit pensionnat catholique, donc entre 1949 et 1952. C'était un pensionnat très rude et très tendre en même temps. Et là, j'ai connu des pères. C'était pas des pères d'un ordre, c'était des prêtres de paroisse qui nous apprenaient le grec, le latin, le français, la géographie, l'histoire, l'instruction religieuse, la Bible. Donc ça, c'est une très belle période. Mais j'avais 9 ans. Entre 9 et 12 ans, c'est une belle période parce que c'était en plein champ, c'était en pleine montagne, c'était extrêmement dur, hein, c'était encore le rationnement, c'était pas chauffé, c'était effrayant, il y avait la neige quasiment 6 mois de l'année, et pourtant il y avait, je sais pas, une espèce de beauté de... pour moi en tout cas. Je sais que d'autres l'ont vécu assez mal. J'ai été aussi très aimé par ses pères, dont un qui était le directeur du reste.
Ils vous ont fait écrivain, vous croyez?
Peut-être, mais je pense que ça a commencé bien avant, je pense. Ça a commencé, je pense, avec ma mère. à laquelle je dois beaucoup, bien entendu. Sur le plan historique, sur le plan de l'art, sur le plan de... Même s'il était assez peu moderne dans ses goûts. Néanmoins, bon, elle aimait beaucoup Picasso, par exemple. Ce qui, pour une personne née en 1907, donc dans sa classe, c'était quand même assez bien, si vous voulez. Malgré tout.
D'ailleurs, le livre commence avec votre mère et avec cette scène où, quelques jours avant de disparaître, elle vous demande, oui. vous appelle pour oui. savoir si votre vocation artistique oui. est toujours aussi présente et aussi forte.
Oui. Parce qu'elle était... Vous savez, je me mets à sa place. Je me mets à la place de mon père aussi. On le voit bien dans ce livre, du reste. Je ne savais pas ce qu'il pensait, mais comment pouvait-il le savoir ? Quand vous avez un enfant qui peint toute la journée, qui fait des poèmes, etc., qui les cache ou qui les montre, etc., qui montre un très grand intérêt pour ça, qui est très malheureux quand il a raté une gouache, par exemple, très malheureux si le poème ne marche pas, comme les parents peuvent se poser des questions, c'est normal.
Donc avant de mourir, elle a voulu savoir ?
Elle a voulu savoir, je pense qu'elle en était sûre, parce que je pense qu'elle comprenait, et je pense qu'elle espérait, parce qu'elle avait une conception très romantique de l'art, hein. L'art devait être l'art de faire souffrir les créateurs, en quelque sorte. Et je pense qu'elle le sentait et elle le craignait. Alors, est-ce qu'elle me jugeait capable de surmonter tout ça? Je n'en sais rien. Mon père y croyait aussi. Bien que beaucoup moins cultivé, etc., beaucoup moins touché par l'art, sauf par la peinture. Mais non, mais je pense qu'ils ont posé des questions et après tout, je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur place.
Donc, peut-être que vous écrivez pour elle, pour lui, aujourd'hui encore?
Oui, tout à fait. Pour remarquer du reste que je leur rends toujours hommage, à lui en particulier, avec lequel je me suis beaucoup affronté, bien entendu. Mais ça, c'est classique. Les pères servent à ça, après, d'une certaine façon. Pauvre père.
Merci beaucoup, Pierre Guyotat. Idiotie est édité donc chez Grasset et a obtenu notamment le prix Médicis et le prix de la langue française. Et alors, j'ai regardé votre bibliographie en dernière page et j'ai vu que 5 livres sont annoncés comme étant en préparation.
Oui.
Ça, je me suis dit, c'est quand même rare qu'un écrivain dise ce qu'il
mais
va écrire.
Mais ils sont faits. Mais
ils sont faits.
Ils sont faits, mais ils sont
édités, juste publiés.
Ils sont faits, mais vous savez, chez moi, quelquefois, enfin, plus maintenant, mais à l'époque, les choses étaient faites pour moi, mais il fallait que je les revoie vraiment. Donc, la réfection ou la révision est un travail extrêmement long et beaucoup plus dur que la rédaction elle-même. Donc, ils sont prêts, ils sont là, mais y toucher me fait peur encore, si vous voulez. Il faudrait que j'ai retrouvé toutes mes forces. Pour revisiter tout ça. Revisiter tout ça.
À vous lire très vite. Donc merci beaucoup Pierre Guyotat. De vive voix Pascal Paradou, Véronique Durand à la programmation et Guillaume Ploquin à la réalisation. À très vite.